Bonjour, passé, présent, l'émission historique de Radio Judaïka consacrée aujourd'hui à la Seconde Guerre mondiale à travers un événement tout à fait important mais longtemps passé sous silence, la conférence de Saint-Dié des Vosges qui a réuni les principaux responsables militaires américains le 24 novembre 1944. Et pour nous en parler, j'accueillerai dans un instant Dominique François Barrette qui publie aux éditions La Nuée Bleue « La décision secrète d'Eisenhower ». Mais avant cela, le coup de cœur de l'émission, le coup de cœur littéraire pour une terre étroite, carnet d'Israël et de Palestine. C'est signé Cyprien Mizinski et c'est publié aux éditions Salvator Normalien, agrégé d'histoire. Cyprien Mizinski qui enseigne cette discipline dans un établissement de l'enseignement secondaire, aime voyager. Au printemps 2015, il a traversé la péninsule italienne à pied. Aujourd'hui, il nous livre ses carnets d'Israël et de Palestine dans un ouvrage intitulé « Une terre étroite » préfacé par Alexis Génie, prix Goncourt 2011 et publié aux éditions Salvator, de Jérusalem à Haïfa, en passant par Bethléem, Jéricho, Hébron, Ramallah, Tel Aviv et Nazareth, il nous invite à une découverte érudite de cette terre si chargée d'histoire. Au fil des pages, le lecteur découvre le charme de la vieille ville de Jérusalem, rencontre des druzes israéliens dont certains sont engagés dans Tsahal et entre dans l'intimité des derniers samaritains établis à Naplouse, au pied de leur sanctuaire du mont Garizim, sans oublier les bédouins du désert du Negev. Pour revenir aux samaritains, je tiens à signaler le remarquable portrait d'Abdallah Cohen, qui est particulièrement saisissant. L'auteur évoque également de nombreux sites marqués par l'empreinte de l'histoire sainte, comme le mont des Béatitudes, le Saint-Sépulcre, la basilique de l'Annonciation à Nazareth ou celle de la Nativité à Bethléem, sans oublier le lieu où Jean le Baptiste baptisait dans le Jourdain et les tombeaux des patriarches à Hébron. Écrit avec élégance et sobriété, ce livre qui touche à l'humain est très agréable, il apprend beaucoup et c'est pour cela que je recommande aux auditeurs sa lecture. Un seul regret, son parti pris récurrent en faveur des Palestiniens. Cyprien Mizinski aurait gagné à un jugement plus équilibré sur la situation dans la région. Voilà pour ce coup de cœur, une terre étroite, carnet d'Israël et de Palestine, préfacé par Alexis Génie, c'est signé Cyprien Mizinski et c'est publié aux éditions Salvator. Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission passé-présent avant de retrouver Dominique François Barrette pour La décision secrète d'Eisenhower, publiée aux éditions La Nuée Bleue. Nous écoutons Marie-Paul Bell qui a eu son heure de gloire à la fin des années 1970, début des années 1980. Nous écoutons son plus grand succès, La Parisienne.
Lorsque je suis arrivée dans la capitale, j'aurais voulu devenir une femme fatale. Mais je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe. Je suis beaucoup trop normale, ça me vexe. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Aucune bizarrerie, ça m'ennuie, pas la moindre affectation. Je ne suis pas dans le ton, je ne suis pas végétarienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas karatéka, ça me met dans l'embarras. Je ne suis pas cinéphile, c'est débile, c'est débile. Je ne suis pas MLF, je sens qu'on m'en fait grief, m'en fait grief. Bientôt, j'ai fait connaissance d'un groupe d'amis vivant en communauté dans le même lit. Comme je ne buvais pas, je ne me droguais pas et n'avais aucun complexe, je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe, pour réussir mon destin, je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, oh dit le psychanalyste, que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Me dit le docteur en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Depuis je suis à la mode, je me rôde dans les lits de Saint-Germain. C'est divin, c'est divin. Je fais partie de l'élite, ça va vite, et je me donne avec joie tout en faisant du yoga. Je vois les films d'épouvante, je m'en vante en serrant très fort la main du voisin, me sachant original. Je cavale, j'assume ma libido. Je vais draguer en vélo. Maintenant je suis parisienne, je me surmène et je connais la détresse. Le stress, enfin à l'écologie, je m'initie, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, et loin de la pollution, je vais tendre mes moutons, mes moutons, mes moutons, mes moutons.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité aujourd'hui, Dominique François Barrette, pour le livre qu'il publie aux éditions La Nuée Bleue, intitulé « La décision secrète d'Eisenhower » et qui nous plonge dans un moment bien singulier de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dominique François Barrette, bonjour.
Bonjour Monsieur Kovar et merci de votre intérêt pour le livre.
Bah écoutez, c'est un livre tout à fait passionnant. Vous mettez en lumière un événement qui ne l'était pas et qui est resté passé sous silence pendant presque 75 ans.
C'est vrai, c'est vrai. Ça peut paraître un petit peu paradoxal qu'il y ait encore des événements comme cela qui soient méconnus, alors qu'on a tellement écrit sur la Seconde Guerre mondiale. Mais cela s'explique. Ça s'explique parce que il s'agit de faits qui sont basés sur des documents qui sont restés très longtemps secrets. Les conférences à très haut niveau que menait Eisenhower étaient donnaient lieu à des comptes rendus, mais qui étaient estampillés secrets et qui n'ont été déclassifiés que progressivement. Alors c'est la première raison pour laquelle ça n'est pas très connu, cet événement n'a pas été connu en France. La deuxième raison, c'est que il y a le barrage de la langue, il faut lire l'anglais, il faut lire des dizaines, des centaines, des milliers de pages en anglais avant de tomber sur les bons documents, et cela n'est pas toujours facile, et puis il faut se les procurer depuis les États-Unis, ce qui n'est pas non plus toujours très aisé. Donc cela explique qu'il y a encore des surprises à attendre et qu'il y a encore des événements méconnus, mais néanmoins très importants sur la Seconde Guerre mondiale qui puissent être mis à jour.
Comment avez-vous mené vos recherches ?
Alors, essentiellement de deux façons. J'ai beaucoup travaillé sur le net parce que les autorités américaines mettent beaucoup de choses sur la toile. Donc ça m'a permis de faire un certain nombre de repérages. Ça nécessite évidemment de lire beaucoup, de lire énormément de pages en anglais. Et puis dans un deuxième temps, j'ai pris contact avec un certain nombre de fondations américaines, d'universités, de fonds d'archives, pour me faire communiquer des pièces. Et alors, comme j'ai travaillé pendant un certain temps à l'OTAN, cela m'a évidemment facilité les choses aussi, parce que il faut quand même pouvoir montrer patte blanche avant de se faire communiquer certains documents.
Alors, cet événement que vous révélez a lieu le 24 novembre 1944, c'est-à-dire le lendemain de la libération de Strasbourg. Ça a lieu à Saint-Dié des Vosges, dans une modeste ferme d'un hameau se situe à proximité de la localité, et cela réunit les plus importants responsables militaires américains de la région autour d'Eisenhower.
C'est cela. Donc, comme vous l'avez dit, l'événement déclencheur, c'est l'arrivée des troupes de la 2e DB de Leclerc à Strasbourg, en pointe de la 7e armée américaine. Ceci couplé au fait que quelques jours plus tôt, la première armée française de Delattre a fait irruption dans le sud de l'Alsace et a atteint le Rhin dans la région de Mulhouse, un peu au sud de Mulhouse, change complètement la donne pour Eisenhower et pour ses généraux. Et pour les alliés en général, il faut ajouter également Montgomery. Au mois d'octobre 1944, les alliés, constatant qu'ils s'enlisaient et que leur avance prenait du retard, ont mis sur pied un ensemble d'offensives qui devait être déclenché en novembre, à la mi-novembre 1944. Ces offensives, elles étaient sur l'ensemble du front, mais on attendait la percée au niveau de Metz et puis en direction de la Sarre, c'est-à-dire l'endroit où se trouvait Patton. On comptait sur Patton pour, et notamment Eisenhower lui-même, comptait sur son ami Patton pour percer à cet endroit-là. Or, la percée ne se réalise pas. Or, toutes ces offensives s'enlisent progressivement, sauf à un endroit, là où on n'attendait aucun résultat, et cet endroit, c'est donc en Alsace. Et ça change complètement la donne. Donc l'arrivée, je reprends ce que je disais, l'arrivée de Leclerc à Strasbourg, pour Eisenhower, c'est un événement qui change beaucoup de choses, parce qu'il y a la possibilité à ce moment-là de passer le Rhin.
En quelque sorte, les troupes françaises sont allées trop vite.
C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, Patton, dans ses carnets, l'écrit. Il écrit « Les Français sont en train de nous voler la victoire ». Et donc... il y a à ce moment-là cet endroit du front, les troupes américaines et françaises qui se trouvent en Alsace sont commandées par un général très important, néanmoins méconnu, qui est le général Devers. C'est lui qui a réalisé le débarquement de Provence, notamment. Et Devers a tout préparé pour le passage du Rhin. Quand je dis qu'il a tout préparé, il s'est assuré même le concours de l'US Navy. Il a des pontonniers qui savent exactement comment ils vont passer le Rhin, qui savent exactement où ils vont le passer. Les ingénieurs américains ont travaillé là-dessus, ont travaillé sur maquettes, et tout est prêt pour passer le Rhin dans la foulée des succès français. Néanmoins, pour Eisenhower, cela pose un problème. Et c'est ça qui le fait venir à Saint-Dié. Enfin, c'est un ensemble, si vous voulez, de visites sur le front. Il va d'abord à Nancy, il passe à Lunéville, à Sarrebourg, à Saint-Dié, qui est vraiment l'endroit où il va prendre la décision. Et puis il ira à Vittel après. Mais c'est cet élément-là qui l'amène, le succès des Français qui est inattendu.
Alors, nous reviendrons en fin d'entretien sur la conférence en elle-même. Je souhaiterais que vous puissiez nous préciser un peu la situation à Saint-Dié en cet automne 1944. Saint-Dié, c'est une ville dévastée.
Ah, c'est, oui, c'est absolument terrible.
Vous proposez dans votre ouvrage des photos tout à fait saisissantes.
C'est cela. Alors, effectivement, la ville de Saint-Dié a beaucoup souffert. Il faut savoir, d'abord, et je pense que ça intéressera vos auditeurs, c'est pas directement lié avec le livre, mais je me permets de le signaler, que la population juive de Saint-Dié avait complètement disparu de la ville déjà depuis la mi-juillet 1944. Donc, c'est déjà une ville qui a été épurée, si on peut dire, des éléments que les Allemands concernaient tout à fait, disons, étrangers à leur vue. De même, les résistants ont été pourchassés. Donc c'est une ville qui est déjà sur laquelle la mainmise allemande est extrêmement forte et extrêmement lourde. En plus de ça, Saint-Dié, comme d'autres villes des Vosges, a été effectivement détruite, donc détruite, dynamité, incendiée, aux trois quarts, pour des raisons qui sont assez difficiles encore à comprendre aujourd'hui. Des raisons stratégiques et même tactiques sont pas absolument évidentes, mais enfin ce serait un autre débat. Mais c'est effectivement une ville dont les habitants errent parmi les ruines, essayant de sauver les quelques biens qui peuvent rester, qui peuvent subsister, quelques morceaux de bois pour se chauffer, etc. C'est une vision effectivement qui frappe d'ailleurs beaucoup les Américains, parce que Eisenhower et ses généraux, alors qui est là, Eisenhower vient avec Bradley, qui est le vainqueur de la bataille de Normandie, avec Devers, dont j'ai parlé, qui est donc le vainqueur du débarquement de Provence, et il y a le général Patch également, qui est là, et puis le général américain commandant les troupes sur place, qui est le général Brooks. Donc c'est une réunion à extrêmement haut niveau, et ces généraux vont vouloir venir voir ce que sont les ruines de Saint-Dié. Et il y a une photo où on voit notamment Devers avec Bradley dans les ruines. Et ils sont absolument saisis par ce qu'ils voient. Il y a des descriptions des aides de camp d'Eisenhower lui-même et de Bradley qui montrent que cette détresse terrible de la population déodacienne leur fait une très très grande impression. Un point tel que, pour ceux qui ont vu le film Monuments Man, Eisenhower décide que la ville de Saint-Dié sera reconstruite reconstruite avec une main-d'œuvre allemande après la guerre.
Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je recommande la visite du musée Pierre Noël à Saint-Dié-des-Vosges, où vous avez des restitutions photographiques tout à fait remarquables.
Oui, tout à fait. Vous avez raison, absolument. Les photos parlent d'elles-mêmes. C'est quelque chose de saisissant.
Parle-nous un peu de Dwight Eisenhower. Quel est son parcours ? Il est lieutenant-colonel en 1940. C'est un parcours fulgurant. En trois ans, il va se retrouver à la tête de l'ensemble des troupes alliées. Sur le terrain occidental, du moins.
Oui, vous avez raison, M. Kovar.
Et il a des origines alsaciennes.
Alors voilà.
C'est ce qu'on apprend dans votre livre.
C'est vrai. Il a des origines alsaciennes, notamment par sa mère, dans la région de Haguenau. Donc les détails sont donnés dans le livre. Bon, ils sont donnés en note, hein, parce que ça n'est en note de bas de page, parce que c'est pas l'essentiel du propos.
Non, mais quand même, c'est.
Mais c'est vrai,
c'est très intéressant.
Quelque chose de méconnu aussi. Mais oui, c'est quelque chose de méconnu. Et il a même du côté paternel des ancêtres qui ont été alors assez pendant assez peu de temps, mais qui ont été lorrains pendant quelques temps. Il s'était installé à l'actuelle frontière entre la France et la Allemagne, dans la région de Forbach, et à un certain moment, ils ont dépendu du duché de Lorraine, avant son rattachement à la France, donc effectivement, il a
Il vient un peu sur les pas de ses ancêtres.
Oui, je suis pas sûr qu'il le sache. Je suis pas sûr qu'il le sache.
Ça remonte pas très loin, c'est sa grand-mère maternelle.
C'est son arrière-arrière-grand-mère, oui.
Elle est née en 1825, hein, donc lui est né en 1890, il me semble, hein, si mes souvenirs sont exacts. Donc c'est pas un écart de génération considérable.
Non. Mais enfin, bon, la famille d'Eisenhower s'est installée aux États-Unis pendant la deuxième moitié du 18e, aux alentours de 1700, aux alentours de 1740, enfin 50-40. Et il y a eu de la part de la famille d'Eisenhower une volonté d'assimilation très très forte.
D'accord, donc on a gommé les références originelles.
Il s'appelait Eisenhower avec avec à la fin H-A-U-E-R, et donc ce qui a été transformé, ce qui a été anglicisé en O-W-E-R, justement pour des raisons d'assimilation. Je ne sais pas dans quelle mesure il était au courant. Le général de Vers, lui, avait une arrière-grand-mère qui était strasbourgeoise, et il le savait, il en était informé. Mais donc, pour revenir à la carrière de Dwight Eisenhower, c'est quelqu'un qui, effectivement, a une carrière assez modeste, et qui va avoir un destin tout à fait hors du commun à partir du moment où il va être remarqué par le général Marshall, qui est le chef d'état-major de l'armée américaine. Et le général Marshall va remarquer Eisenhower pour ses qualités de logisticien. C'est quelqu'un qui est très doué dans la logistique.
C'est un officier d'état-major, Eisenhower.
Oui, il a
fait pas connu l'épreuve du feu.
Non, il n'a pas connu l'épreuve du feu, et donc ça, c'est une des choses qui lui sera par moment reprochée. Mais c'est un logisticien, et il sait sur le terrain ce qu'est une bombe logistique. Il s'est intéressé également à la question des chars. C'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a un bon sens également des relations publiques. Une personnalité ouverte, assez facilement consensuelle. Avec ses qualités, auprès de Marshall, il va se révéler, et un point tel qu'on va donc lui confier des missions de plus en plus importantes, notamment le débarquement en Afrique du Nord, parce que c'est des questions logistiques, et puis le débarquement de Normandie, qui est peut-être un des chefs-d'œuvre, des plus grands chefs-d'œuvre de logistique militaire de tous les temps, et dans lequel, évidemment, là aussi, il va se révéler. Alors, sa progression en grade va suivre, évidemment, ses responsabilités de plus en plus importantes. Au moment où nous parlons, donc novembre 1944, Eisenhower est peut-être le personnage le plus puissant en Europe, mis à part Staline. Il dispose, sans beaucoup de supervision de la part de sa plus haute hiérarchie politique, il dispose de plus d'un million d'hommes, il dispose de dizaines de milliers d'avions, de chars, une force absolument considérable. Il est le commandant suprême des armées alliées en Europe en ce qui concerne les armées de terre et de l'air. Et donc, c'est effectivement un très très grand personnage. Je reviens un tout petit peu, si vous permettez, sur le général de Vers.
Oui, volontiers.
Le général de Vers, c'est quelqu'un qui est un petit peu le Poulidor d'Eisenhower. C'est quelqu'un qui a suivi aussi une très belle carrière, qui est aussi un des poulains du général Marshall, et c'est quelqu'un que Eisenhower voit un peu comme un concurrent. Et donc, dans la décision qui va devoir être prise, est-ce qu'on poursuit ou pas les succès français, est-ce qu'on traverse le Rhin dans la foulée, ce qui était le plan de Devers, eh bien, peut-être, est-ce que cette tension, on peut presque même aller parfois jusqu'à animosité entre Eisenhower et Devers, va jouer un rôle.
Nous parlerons de cela dans un instant, Dominique François Barrette. Après une nouvelle pause musicale, nous retrouvons Marie-Paul Bell pour « Nous ne serons jamais plus seuls ». Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité, Dominique François Barrette, pour le livre qu'il publie aux éditions La Nuée Bleue, La décision secrète d'Eisenhower, Saint-Dié, 24 novembre 1944, qui nous plonge donc dans un événement tout à fait inédit de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons beaucoup parlé de l'armée américaine, bien moins des Britanniques. Qu'en est-il ?
Ah, ça c'est une excellente question si vous me permettez, Monsieur Kovar. Effectivement, les Britanniques ont joué indirectement un rôle très important dans cette décision qu'a prise Eisenhower. Alors, il faut rappeler que l'armée britannique, dirigée par le maréchal Montgomery, est positionnée dans le nord de l'Europe, disons à la hauteur à cette époque-là des Pays-Bas. Et que dans l'ensemble des offensives dont j'ai parlé tout à l'heure, les Britanniques n'ont pas beaucoup plus de succès que l'essentiel des autres troupes américaines, si l'on excepte donc le secteur de la Lorraine et de l'Alsace. Néanmoins, les Britanniques ont vocation à être associés de façon très importante à la victoire contre l'Allemagne nazie. Ils sont en guerre depuis plus longtemps que les autres, si l'on peut dire. Ce sont eux qui ont supporté le plus long effort de guerre parmi l'ensemble des nations belligérantes. Et les Britanniques entendent bien évidemment que ces années d'efforts et de souffrances trouvent leur couronnement dans la défaite allemande, et donc ils puissent, si je puis m'exprimer ainsi, ramasser un certain nombre des lauriers de la victoire. C'est une donnée qui est à la fois militaire et politique, et dont Eisenhower doit tenir compte. Eisenhower est lui-même justement quelqu'un qui a, parmi ses nombreuses qualités, qui a ce sens l'équilibre entre les aspects militaires et les aspects politiques, et c'est ce qui lui permettra d'ailleurs de devenir président des États-Unis ultérieurement. Donc il doit ménager les Britanniques. Et le maréchal Montgomery, lui, insiste depuis longtemps, depuis les semaines qui ont suivi le débarquement de Normandie, pour que l'essentiel de l'offensive alliée ait lieu dans le nord de l'Allemagne, dans cette grande plaine du nord de l'Allemagne qui peut conduire jusque Berlin. Il insiste très très fort, ce qui se passe au sud du front, c'est-à-dire cette victoire inattendue des troupes françaises, des troupes américaines du général Patch, qui commande la 7e armée américaine dans la région, eh bien, ces succès, évidemment, peuvent lui faire craindre que l'offensive soit déplacée vers le sud du front, ce qui serait, pour les intérêts britanniques, assez catastrophique. C'est une donnée dont Eisenhower va tenir compte. Et c'est particulièrement important à souligner parce que aucun auteur jusqu'ici n'avait regardé cet angle. Les auteurs américains sont souvent assez américano-centrés, ce qui peut évidemment s'expliquer. Les auteurs français sont souvent assez franco-centrés.
C'est vrai.
On oublie cet aspect, l'importance de cet aspect politico-militaire, le fait que les Britanniques veulent avoir droit à la victoire qui soit reconnu. Eisenhower a intégré cette donnée et je pense que c'est, et je sais que c'est un des éléments qui a pesé dans son choix. Dernière petite chose assez intéressante. Eisenhower avait deux aides de camp qui l'accompagnaient partout. L'un était américain, l'autre était britannique. L'aide de camp britannique, le lieutenant-colonel Gout, n'a pas assisté directement à cette prise de décision à Saint-Dié. Il était là, mais il était en dehors de la salle. Il n'avait évidemment pas le rang pour pouvoir prétendre être présent. Néanmoins, il a entendu écouté et entendu les conversations qu'il y a eues à la sortie. Et il y a des photos qui le montrent. Et il y a une photo extraordinaire qui est dans le livre, où l'on voit Eisenhower se tournant vers le général Devers, en lui disant, on peut presque lire sur les lèvres, Eisenhower a un air assez mauvais, donc lui disant, vous avez compris ce que j'ai dit, vous ne passerez pas le Rhin, et juste derrière Eisenhower, immédiatement derrière, collant pratiquement à son épaule, on a le lieutenant-colonel Gaut qui écoute. Et ce ne sera pas une surprise quand on saura que le lendemain soir, Montgomery demande à Eisenhower de le rencontrer très rapidement. Pourquoi ? Pour tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Comment Montgomery sait-il ce qu'Eisenhower a décidé et qu'il y a une décision importante qui a été prise ? Eh bien, très vraisemblablement, c'est le lieutenant-colonel Gaut qui lui a communiqué. Donc, les Britanniques sont, je dirais, dans la tête d'Eisenhower lorsque la décision est prise, mais ils sont aussi quelque part un petit peu physiquement présents à Saint-Dié.
Dominique François Barrette, 5 semaines avant la conférence de Saint-Dié, se tient une autre conférence, c'est le 18 octobre 1944 à Bruxelles. Et elle a son importance.
Oui, alors conférence tout à fait méconnue, mais c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé depuis le début, méconnue. Une des choses que j'ai oublié de dire, c'est que après la guerre, il y a eu une tentative un petit peu de faire oublier certains aspects qui étaient peut-être moins reluisants. Et cette conférence de Bruxelles, qui rassemblait Eisenhower, Montgomery et Bradley notamment, devait décider justement des grandes offensives dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la façon dont on pouvait en finir rapidement avec l'Allemagne. Cette conférence, elle a décidé quelles étaient les offensives qui seraient lancées. Comme j'ai dit tout à l'heure, les offensives ont toutes échoué, sauf dans le secteur sud, donc secteur de la Lorraine et de l'Alsace. Et en quelque sorte, cette conférence donc a débouché sur des mécomptes pour les Alliés. C'est la raison pour laquelle on en parle pratiquement nulle part. Il y a quand même quelques bons auteurs qui la mentionnent. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, je n'ai même pas été capable de trouver une seule photo de cette conférence. Il n'y en a pas dans les fonds Eisenhower, notamment. J'en ai pas trouvé côté britannique non plus. C'est un peu comme si elle avait été gommée, vous voyez. Donc, il y a des choses comme ça. On dit toujours, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il est certain que, après-guerre, sur cette campagne, sur la fin de la guerre et notamment sur ces offensives d'automne qui ont été assez calamiteuses, il y a des choses qui sciemment ont été gommées, ont voulu être gommées.
Alors revenons sur l'événement qui est au cœur de votre ouvrage, à savoir cette conférence de Saint-Dié du 24 novembre 1944 et sur son contenu et surtout la décision qui va être prise.
Donc Eisenhower est devant un dilemme. C'est un chef militaire, il a un certain nombre de ses troupes, donc les troupes positionnées en Alsace et en Lorraine qui remportent des succès tels que le dispositif allemand est déstabilisé, c'est-à-dire que à ce moment-là, lors de l'avance notamment des troupes, lorsqu'on parle des 23, 24, 25 novembre, lors de l'avance des troupes de la 7e armée américaine du général Patch, on se rend compte qu'il n'y a plus véritablement de dispositif allemand de défense cohérent. Donc on est dans la situation où le front est crevé et où on peut s'engouffrer dans la brèche. Tout général se trouvant devant une telle situation va évidemment essayer d'exploiter l'opportunité qui lui est offerte. Et donc le réflexe, d'Eisenhower en tant que général, en tant que militaire, c'est de dire, bah oui, je suis devant quelque chose de très intéressant. ses subordonnés, mais subordonnés de très haut niveau, Devers, Patch, le poussent dans cette direction. Très clairement, disent, nous, on est prêts à passer le Rhin et on a un plan qui est prêt. Il faut faire très vite. Les Allemands ont montré tout au long de la guerre une capacité extraordinaire à recréer un système de défense, à recréer un front. Donc il faut utiliser, il y a peut-être une opportunité d'un, deux, trois jours, pas plus, pour exploiter cette brèche et pour passer le Rhin. Parce que c'est ça le but, c'est ça qui est en jeu à Saint-Dié, c'est faut-il ou non traverser le Rhin. Devers ayant prévu de le passer à la hauteur de la ville allemande de Rastatt.
Eisenhower, c'est-à-dire entre Strasbourg et Baden-Baden.
Merci.
Non, pour aider à situer.
Bien sûr, oui, parce qu'effectivement, côté... vous avez la carte mieux en tête que moi, voilà. Donc cette opportunité est formidable, mais le dilemme, c'est que, je l'ai dit, l'essentiel des espoirs américains sont placés dans les armées du général Patton, qui est le seul, par exemple, à avoir trois divisions blindées au sein de sa troisième armée. Les plans... Tout est prêt pour justement pousser Patton vers l'avant. Alors, est-ce qu'il faut revoir les plans? Est-ce qu'il faut, au-delà, mécontenter les Britanniques et probablement ouvrir une crise politique dans le front allié? Voilà, c'est l'autre aspect. Donc Eisenhower est partagé et il y a une photo extraordinaire que j'ai retrouvée qui est dans le livre où on le voit en train de se gratter la tête avec son bras. C'est une position qu'on voit rarement chez un grand homme, chez un général. Généralement, on a des photos où on
voit martial. Le général
qui a le... Voilà, exactement, le front haut, le doigt pointé vers l'avant. Mais là, non, il est véritablement perplexe. Et je crois qu'il se pose très honnêtement la question. C'est un des aspects de sa personnalité. Je pense que c'est quelqu'un d'intellectuellement, d'humainement très honnête. Est-ce qu'il doit saisir cette opportunité ou pas? Et finalement, il prend sa décision. Et il dit à Devers et à Patch, vous ne passerez pas le Rhin. Et non seulement il leur dit, mais il l'écrit. Et il y a une autre photo où on le voit brandir un petit papier. Or, Eisenhower donnait ses ordres verbalement. Il n'avait pas besoin de d'écrire par lui-même. L'enjeu est tel qu'il écrit sur un morceau de papier un certain nombre de consignes, immédiatement après la réunion de Saint-Dié, le général Patch va rentrer à son état-major et va mettre les directives d'Eisenhower, va les traduire en termes d'ordre militaire. Donc voilà, il fait le choix à ce moment-là. Ce choix pour les Alsaciens, pour les Lorrains, il est tragique parce que ça retarde évidemment la libération, mais si on prend plus de recul, si on prend plus de hauteur, on doit se demander est-ce qu'il a eu raison ou tort. Alors dans le livre, je fais une simulation de ce qu'aurait été l'alternative proposée par Devers, et puis voilà, je fais une analyse personnelle et j'essaie de répondre à cette question, a-t-il eu raison ou tort.
C'est votre dernier chapitre. Je vous laisse peut-être l'esquisser, en tout cas.
Oh, écoutez, je pense qu'il faut laisser au lecteur un peu de
un petit peu de mystère,
si vous le permettez. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien tout à fait passionnant et ce livre qui l'est tout autant. Je rappelle son titre, La décision secrète d'Eisenhower, Saint-Dié, 24 novembre 1944. C'est publié aux éditions La Nuée Bleue. Merci beaucoup, Dominique-François Barrette, pour ce travail historique tout à fait remarquable qui, je crois, a été salué par un prix.
Oui, même par trois prix.
Même par trois prix. Voilà, bon, vous êtes trop modeste.
Voilà. Mais donc, c'est ça, il y a le Grand Prix de l'Académie Lorraine des Sciences, il y a la Bourse d'Histoire Erckmann-Chatrian, et il y a le prix des conseils départementaux de Lorraine.
Et il est préfacé par le maire de Saint-Dié-des-Vosges.
C'est cela.
Comment a-t-il été ressenti à Saint-Dié ?
Alors, écoutez, de façon à peu près unanime, par la phrase « Comment est-ce possible ? Nous ne savions pas. Et comment est-ce possible que nous n'ayons pas su ?» Que quelque chose d'aussi important se soit passé dans la ville. Bon, les éléments de réponse, je les ai donnés au début de l'interview que nous venons de mener. Les Déodaciens étaient à la fois passionnés et stupéfaits d'apprendre ce qui s'était passé il y a 75 ans.
Même les érudits locaux n'en avaient pas eu la moindre suspicion.
Oui, c'est vrai, mais une fois encore, c'est tout à fait compréhensible. Étant donné que les sources sont restées classifiées, sont restées secrètes très très longtemps, et qu'elles étaient très 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 loin de Saint-Dié, de l'autre côté de l'Atlantique.
En tout cas, merci beaucoup et félicitations pour ce merveilleux travail historique. Je recommande bien évidemment à tous les auditeurs la lecture de cet ouvrage qui a une couverture tout à fait saisissante. Il y a eu un beau travail de la part de votre éditeur pour valoriser l'émotion du moment.
Ah, c'est très vrai, c'est très vrai. Mais moi, je vous remercie beaucoup, Monsieur Kovar, et c'était vraiment un grand plaisir de m'entretenir avec vous.
Eh bien, écoutez, c'est un plaisir tout à fait partagé. Puis n'hésitez pas, cette émission est la vôtre. Si vous avez d'autres sujets à partager, ce sera bien volontiers.
Merci beaucoup.
Voilà, je rappelle le titre du livre, La décision secrète d'Eisenhower, Saint-Dié, 24 novembre 1944, en Alsace et en Lorraine, la victoire sacrifiée. C'est publié aux éditions La Nuée Bleue et c'est signé Dominique François Barrette. Cette émission touche à sa fin. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous séparer avec toujours Marie-Paul Bell qui nous propose de s'arrêter au Café Renard.
Il est 5h30, il est encore trop tôt. Et dans les rues il vente, mais j'aime mieux le chaud. Lentement je pénètre dans le Café Renard et je me sens renaître. Donnez-moi donc à boire. Le grand comptoir de marbre, des verres plein le dos, craque comme un vieil arbre quand on s'y appuie trop. Au plafond de vieux lustres ont des lueurs fanées. Lentement les minutes passe dans la fumée. Le va derrière la vitre. Un tout petit monsieur s'amuse à faire le pitre en roulant de gros yeux. Devant moi, une femme belle comme un camé revit de sombres drames et n'ose pas pleurer. Chez moi.